L'abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, chapitre 4, qualité psychique. Nous avons décrit la structure de l'appareil psychique, les énergies ou forces qui sont actives en lui, et nous avons vu, sur un exemple éminent, comment ces énergies, principalement la libido, s'organisent en une fonction physiologique au service de la conservation de l'espèce. Il n'y avait rien là qui plaidât en faveur du caractère tout à fait spécifique du psychique, abstraction faite naturellement de ce fait empirique que les fonctions que nous appelons notre vie d'âme ont pour fondement cet appareil et ses énergies. Nous nous tournons maintenant vers ce qui est la caractéristique unique de ce psychique qui, selon une opinion extrêmement répandue, coïncide même avec lui à l'exclusion de toute autre chose. Le point de départ de cette investigation est donné par ce fait sans équivalent, défiant toute explication comme toute description, qu'est la conscience. Si l'on parle de conscience, on sait pourtant immédiatement par l'expérience la plus personnelle ce que l'on entend par là. Pour beaucoup de personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur de la science, il suffit d'admettre que la conscience seule est le psychique et qu'il ne reste alors rien d'autre à faire en psychologie que de différencier au sein de la phénoménologie psychique perception, sentiment, processus de pensée et acte de volonté. Or, selon un accord général, ces processus conscients ne forment pas des séries fermées sur elles-mêmes et sans lacunes, de sorte qu'il n'y aurait plus qu'à admettre des processus concomitants, physiques ou somatiques, du psychique, processus auxquels on doit concéder une plus grande exhaustivité qu'aux séries psychiques, puisque certains d'entre eux ont des processus parallèles conscients, mais d'autres non. On est naturellement tenté, en psychologie, de mettre l'accent sur ces processus somatiques, de reconnaître en eux ce qui est proprement psychique, et de chercher pour les processus conscients une autre prise en compte. Mais la plupart des philosophes, ainsi que beaucoup d'autres gens, se rebellent contre cela et déclarent qu'un psychique inconscient est un non-sens. C'est précisément ce que doit faire la psychanalyse. Et c'est là sa seconde hypothèse fondamentale. Elle déclare que les processus concomitants supposés somatiques sont le psychique proprement dit, faisant ainsi abstraction, pour commencer, de la qualité de la conscience. Elle n'est pas seule à faire ainsi. Nombre de penseurs, comme par exemple Lipps, ont exprimé la même chose en des termes semblables, et l'insuffisance qu'il y avait généralement dans la conception courante du psychique a eu pour conséquence qu'un concept d'inconscient réclamait son admission avec de plus en plus d'insistance dans la pensée psychologique, bien que de façon si indéterminée et si insaisissable qu'elle n'a pas pu avoir d'influence sur la science. Il semble alors ne s'agir, dans cette différence entre la psychanalyse et la philosophie, que d'une simple question de définition. S'agit-il d'accorder le nom de psychique à l'une ou l'autre série ? En réalité, cette démarche est devenue des plus significatives. Alors que dans la psychologie de la conscience, on n'allait jamais plus loin que ces séries lacunaires, dépendant manifestement d'autres choses venues d'ailleurs, l'autre conception, selon laquelle le psychique est en soi inconscient, a permis de transformer la psychologie en une science de la nature comme n'importe quelle autre. Les processus dont elle s'occupe sont en soi tout aussi inconnaissables que ceux des autres sciences, chimie ou physique, mais il est possible de fixer les lois auxquelles ils obéissent, de suivre intégralement sur de vastes distances leurs relations et dépendances réciproques. Et c'est cela que l'on désigne comme compréhension du domaine en question des phénomènes de la nature. Cela ne peut se faire alors sans de nouvelles hypothèses, ni la création de nouveaux concepts, mais ces derniers ne doivent pas être méprisés comme des témoignages de notre embarras, mais plutôt être appréciés comme des enrichissements de la science. Ils revendiquent la même valeur d'approximation que les constructions intellectuelles auxiliaires correspondantes dans d'autres sciences de la nature. Ils attendent leur modification et leur rectification, ainsi que leur détermination plus fine grâce à des expériences accumulées et passées au crible. Ce qui correspond alors aussi tout à fait à notre attente, c'est que les concepts fondamentaux de la nouvelle science, ces principes, pulsions, énergie nerveuse, etc., restent pour un temps assez long aussi indéterminés que ceux des anciennes sciences, la force, la masse, l'attraction. Toutes les sciences reposent sur des observations et des expériences que transmet notre appareil psychique. Mais étant donné que notre science a pour objet cet appareil lui-même, l'analogie prend fin ici. Nous faisons nos observations au moyen de ce même appareil de perception, à l'aide justement des lacunes dans le psychique, en complétant ce qui est omis par des déductions d'évidence et en le traduisant en matériel conscient. Nous établissons ainsi, en quelque sorte, une série complémentaire consciente rejoignant le psychique inconscient. La relative certitude de notre science psychique repose sur ce que ses conclusions ont d'obligatoire. Celui qui se plongera dans ce travail constatera que notre technique tient bon face à toute critique. Au cours de ce travail, les différenciations que nous désignons comme qualités psychiques s'imposent à nous. Il n'est pas besoin de caractériser ce que nous appelons conscient. C'est la même chose que la conscience des philosophes et de l'opinion populaire. Tout le reste du psychique constitue pour nous l'inconscient. Nous serons bientôt amenés à faire l'hypothèse d'une distinction importante dans cet inconscient. Nombre de processus deviennent facilement conscients, puis ne le sont plus, mais peuvent sans peine le redevenir. Comme on dit, ils peuvent être reproduits ou remémorés, ce qui nous rappelle que la conscience n'est rien d'autre qu'un état des plus fugitifs. Ce qui est conscient ne l'est que pour un moment. Si nos perceptions ne confirment pas cela, ce n'est qu'une contradiction apparente. Elle vient de ce que les stimuli menant à la perception peuvent se maintenir un certain temps, de sorte que la perception peut alors se répéter. Tout cet état de choses devient clair avec la perception consciente de processus de pensée qui, il est vrai, peuvent aussi se maintenir, mais peuvent tout aussi bien s'être déroulés en un instant. Tout ce qui est inconscient, se comportant ainsi, et pouvant si facilement échanger son état inconscient contre un état conscient, nous préférons l'appeler, pour cette raison, capable de conscience ou préconscient. L'expérience nous a enseigné qu'il n'y a guère de processus psychique, si compliqué soit-il, qui ne puisse rester à l'occasion préconscient, même si, en règle générale, il avance jusqu'à la conscience selon notre façon de nous exprimer. D'autres processus et contenus psychiques n'ont pas un accès aussi facile au devenir conscient, mais doivent être déduits, devinés de la manière que nous avons décrite et traduits dans un mode d'expression conscient. C'est à ces processus que nous réservons le nom d'inconscient proprement dit. Nous avons donc attribué trois qualités au processus psychique. Ils sont ou bien conscients, ou bien préconscients, ou bien inconscients. La distinction entre les trois classes de contenus qui sont dotées de ces qualités n'est ni absolue ni permanente. Ce qui est préconscient devient, comme nous le voyons, conscient sans notre intervention. L'inconscient peut, par nos efforts, être rendu conscient, et ce faisant, nous pouvons avoir le sentiment de surmonter souvent de très fortes résistances. Quand nous faisons cette tentative sur quelqu'un d'autre, nous ne devons pas oublier que le comblement conscient de sa lacune de perception, la construction que nous lui apportons, ne signifie pas encore que nous ayons rendu conscient chez lui le contenu inconscient en question. Au contraire, ce contenu est tout d'abord présent chez lui dans une fixation double, une fois dans la reconstruction consciente qu'il a perçue, et en dehors de cela, dans son état inconscient originel. Nos efforts prolongés réussissent alors la plupart du temps à faire que cet inconscient lui devienne conscient à lui-même, grâce à quoi les deux fixations coïncident. La mesure de nos efforts, d'après laquelle nous évaluons la résistance au devenir conscient, est d'une grandeur différente pour chacun des cas. Ce qui constitue, par exemple, dans le traitement analytique, le résultat de nos efforts peut aussi se produire spontanément. Un contenu d'ordinaire inconscient peut se transformer en un contenu préconscient et ensuite devenir conscient, comme cela se passe dans une large mesure dans des états psychotiques. Nous en concluons que le maintien de certaines résistances internes est une condition de la normalité. Il se produit régulièrement un tel relâchement des résistances avec ce qui en résulte. Dans l'état de sommeil, un contenu inconscient opère une avancée. La condition de la formation du rêve étant ainsi établie. À l'inverse, un contenu préconscient peut être temporairement inaccessible, barré par des résistances, comme c'est le cas lors de l'oubli temporaire, le trou de mémoire. Ou alors une pensée préconsciente peut elle-même être temporairement rétrogradée dans l'état inconscient, ce qui semble être la condition du trait d'esprit. Nous verrons que cette sorte de rétro-transformation de contenu ou processus préconscient dans l'état inconscient joue un grand rôle dans la causation des troubles névrotiques. Présenté dans sa généralité et sa simplification, la doctrine des trois qualités du psychique semble être davantage une source de confusion infinie qu'une contribution à l'éclaircissement des choses. Il ne faut pourtant pas oublier qu'elle n'est pas à proprement parler une théorie, mais plutôt un premier compte-rendu des faits de nos observations, qu'elle s'en tient à ces faits d'aussi près que possible et qu'elle n'essaie pas de les expliquer. Les complications qu'elle met à découvert feront peut-être comprendre les difficultés particulières auxquelles notre recherche doit se confronter. Mais il est à présumer aussi que cette doctrine nous deviendra plus proche si nous observons les relations qui s'établissent entre les qualités psychiques et les provinces ou instances supposées par nous de l'appareil psychique. Quoi qu'il en soit, ces relations aussi sont loin d'être simples. Le devenir conscient est avant tout rattaché aux perceptions que nos organes sensoriels acquièrent du monde extérieur. Pour le mode de considération topique, c'est donc un phénomène qui se passe dans la couche corticale la plus externe du moi. Cependant, nous recevons aussi des informations conscientes venant de l'intérieur du corps, les sentiments qui ont même sur notre vie d'âme une influence plus impérieuse que les perceptions externes. Et dans certaines circonstances, les organes sensoriels livrent aussi des sentiments, des sensations de douleur, en dehors de leurs perceptions spécifiques. Mais comme ces sensations, ainsi que nous les appelons pour les différencier des perceptions conscientes, partent également des organes terminaux, et que nous concevons l'ensemble de ces derniers comme un prolongement, une extension de la couche corticale, nous pouvons maintenir l'affirmation ci-dessus. À cette seule différence que pour les organes terminaux des sensations et sentiments, c'est le corps lui-même qui remplacerait le monde extérieur. Des processus conscients à la périphérie du moi, tous les autres processus dans le moi étant inconscients, tel serait l'état de choses le plus simple dont nous aurions à faire l'hypothèse. Il se peut d'ailleurs qu'il en aille effectivement de même chez les animaux. Chez l'être humain vient s'ajouter une complication faisant que des processus internes dans le moi peuvent aussi acquérir la qualité de conscience. C'est là l'œuvre de la fonction du langage qui établit une liaison solide entre des contenus du moi et des restes mnésiques de perception visuelle, mais particulièrement acoustique. Dès lors, la périphérie perceptive de la couche corticale peut être excitée aussi de l'intérieur, dans une bien plus large mesure, des processus internes tels que les cours de représentation et les processus de pensée peuvent devenir conscients, et il est besoin d'un dispositif particulier qui différencie les deux possibilités, ce que l'on appelle l'examen de réalité. L'assimilation perception-réalité, monde extérieur, n'a plus de raison d'être. Des erreurs qui maintenant se produisent facilement, régulièrement dans le rêve, sont appelées hallucinations. L'intérieur du moi, qui comprend avant tout les processus de pensée, a la qualité de préconscient. C'est elle qui caractérise le moi, qui lui revient à lui seul. Mais il ne serait pas exact de faire de la liaison avec les restes mnésiques du langage la condition de l'état préconscient. Cet état en est plutôt indépendant, même si la condition du langage autorise à conclure avec certitude à la nature préconsciente du processus. L'état préconscient, qui se distingue d'une part par son accès à la conscience, d'autre part par sa connexion avec les restes de langage, est cependant quelque chose de particulier dont la nature n'est pas épuisée par ces deux caractères. La preuve en est que de grandes parts du moi, avant tout du surmoi, auquel on ne peut contester le caractère de préconscient, restent bien pour l'essentiel inconscientes au sens phénoménologique. Nous ne savons pas pourquoi il faut qu'il en soit ainsi. Nous essaierons plus tard d'aborder le problème de la véritable nature du préconscient. L'inconscient est la seule qualité qui domine dans le « ça ». « Ça » et « inconscient » vont ensemble de façon tout aussi intime que « moi » et « préconscient ». Le rapport est même ici encore plus exclusif. Un regard en arrière sur l'histoire du développement de la personne et de son appareil psychique nous amène à constater une différenciation significative dans le « ça ». À l'origine, tout était « ça ». Le « moi » s'est développé à partir du « ça », du fait de l'influence du monde extérieur qui s'est poursuivi. Durant ce lent développement, certains contenus du « ça » sont passés dans l'état préconscient et ont ainsi été admis dans le « moi ». D'autres sont restés inchangés dans le « ça », constituant son noyau difficilement accessible. Mais durant ce développement, le « moi » jeune et sans force a de nouveau reporté dans l'état inconscient certains contenus qu'il avait déjà admis, les a abandonnés et s'est comporté de la même manière envers nombre de nouvelles impressions qu'il aurait pu admettre, de sorte que ces dernières, ayant été repoussées, n'ont pu laisser de traces que dans le « ça ». Cette dernière part du « ça », nous l'appelons, compte tenu de son mode d'apparition, le « refoulé ». Il importe peu que nous ne puissions pas toujours différencier rigoureusement dans le « ça » ces deux catégories. Cela recoupe à peu près la séparation faite entre ce qui est apporté avec soi à l'origine et ce qui est acquis durant le développement du moi. Mais si nous avons opté pour la décomposition topique de l'appareil psychique en moi et ça, avec laquelle va de pair la différenciation qualitative entre préconscient et inconscient, et si nous avons pris cette qualité seulement comme un indice de cette différence et non pas comme son essence, en quoi consiste alors la nature proprement dite de l'état qui se révèle dans le ça par la qualité d'inconscient, dans le moi par celle de préconscient, et en quoi la différence entre les deux réside-t-elle? Eh bien, nous n'en savons rien. Et sur l'arrière-plan d'obscurité profonde de cette ignorance, nos rares connaissances se détachent bien faiblement. Nous nous sommes approchés ici du secret véritable, encore non dévoilé, du psychique. Nous faisons l'hypothèse, comme d'autres sciences de la nature nous en ont donné l'habitude, qu'une sorte d'énergie est active dans la vie d'âme. Mais il nous manque tous les points d'appui nous permettant d'en approcher la connaissance par des analogies avec d'autres formes d'énergie. Nous croyons reconnaître que l'énergie nerveuse ou psychique existe sous deux formes, l'une facilement mobile, l'autre plutôt liée. Nous parlons d'investissement et de surinvestissement des contenus, et nous allons même jusqu'à supposer qu'un surinvestissement produit une sorte de synthèse de divers processus au cours de laquelle l'énergie libre est transposée en énergie liée. Nous nous sommes arrêtés là. Quoi qu'il en soit, nous tenons fermement à l'idée que la différence entre l'état conscient et l'état préconscient réside elle aussi dans de tels rapports dynamiques, ce qui amènerait à comprendre que l'un puisse être translaté dans l'autre spontanément ou grâce à notre concours. Mais derrière toutes ces incertitudes se trouve un fait nouveau dont nous devons la découverte à la recherche psychanalytique. Nous avons appris que les processus dans l'inconscient ou dans le ça obéissent à d'autres lois que ceux dans le moi préconscient. Nous nommons ces lois prises dans leur ensemble processus primaires, par opposition au processus secondaire qui règle ce qui se déroule dans le préconscient, dans le moi. Ainsi donc, pour finir, l'étude des qualités psychiques ne se serait quand même pas avérée infructueuse.